Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Kaohanui.
Et bienvenue dans cette 41e émission,
édition 2023.
Après avoir survolé l'année 1842 et la prise de possession des îles Marquises en mai et juin de cette année-là, j'avais décidé de vous faire participer à la bataille de Waitahu de septembre, déclenchée suite à la rébellion de Yotete et racontée par Max Radiguet, auquel je vous avais dit accorder toute ma confiance quant à la rectitude de sa narration. La dernière fois, j'avais terminé ma lecture le 16 septembre. Ce jour-là, Tahia, fille malade de Yotete, était venue implorer le commandant Hale de laisser son père vivre au fond de la vallée de Waitahu. Hale avait refusé, réclamant le bannissement du chef hors de cette vallée. Tahia s'en était retournée porter la nouvelle et le soir, au camp des Français, on entendit les menaces de mort tomber de la montagne. Rappelez-vous, « Etahi matena totato !»
Une seule mort pour nous tous.
La guerre s'annonçait, et je reprends la lecture de Max Radiguet, page 104, au matin du samedi 17 septembre. Ce matin-là, un indigène qui avait remplacé Panao dans ses fonctions de pilote de Waitahu
pour les navires étrangers en escale
vint au nom du peuple se présenter au gouverneur. Les Kanaks, dit l'envoyé, refusent d'abandonner le roi. Ils sont décidés à mourir plutôt qu'à se séparer de lui. C'était la paraphrase de la décision formulée par les crieurs nocturnes. « Eh bien la guerre alors !» répliqua M. Hale. L'indigène semblait y compter. Sur cette dernière parole, il s'élança vers le ravin et disparut bientôt dans le fourré qui mène à la campagne. Une expédition fut résolue. Trois colonnes furent immédiatement organisées. La première devait former l'aile gauche sous le commandement de M. de Ladébat, lieutenant de vaisseau, et remonter les collines du versant de gauche de la vallée en regardant la montagne, c'est-à-dire suivre le sentier que nous avions parcouru quelques mois auparavant pour nous rendre à l'hôtel Tap. L'aile droite devait, sous le commandement de M. Cunier, capitaine d'infanterie de marine, tenir les collines du versant de gauche, c'est-à-dire de droite en montant, tandis que la troisième colonne, sous les ordres de M. Hale, marcherait vers la montagne par le ravin même, aussitôt que les ailes auraient commencé à éclairer la route. Dès que l'ordre fut donné, la colonne de M. de Ladébat se mit en marche. Un quart d'heure après, elle gagnait un endroit où le sentier descend et traverse des plantations d'arbres à pin, de châtaigniers polynésiens ou mapé, ou ihi, et d'arbres de fer casuarina. Et on arrive à un terrain un peu plus large limité à droite par un ruisseau qu'ombrage une végétation active. Cette troisième colonne atteignit ainsi un pli de terrain derrière lequel un saut de loup transversal, c'est-à-dire une espèce de rupture de terrain, force le sentier à faire un coude. En ce lieu s'élèvent deux ou trois cocotiers, dont l'un occupe à peu près l'angle externe du coude formé par la route. M. de Ladébat, qui marchait en tête de ses hommes, déboucha brusquement à 30 pas du fossé et put apercevoir sur l'autre bord un petit mur en pierre sèche où l'on avait aménagé des meurtrières et, flanquant ce premier obstacle, un second mur qui pouvait le prolonger de son feu. Tout près derrière apparaissait une case et une sorte de hangar porté sur des échasses et entouré d'arbres. Dès que l'officier parut, une voix forte sortit du retranchement et jeta ce mot bref « Tapu ! Tapu !» M. de Ladébat, qui peut-être se vit menacé, épaula son fusil de chasse et fit feu de deux coups. Les naturels ripostèrent aussitôt et frappaient de deux balles à la tête. M. de Ladébat roula sur le sol. Cinq matelots furent aussi atteints. Les trois sentiers ne permettaient pas de se présenter à plusieurs de front, et dans cette situation critique, Une partie de la colonne fit un mouvement en arrière, tandis que, mieux avisés, quelques hommes entraient dans les buissons pour échanger le feu avec les Kanaks des retranchements, qui se montraient le moins possible étirés par les ouvertures du parapet. Monsieur Halley, donc le commandant de Waitahu, suivait à petite distance avec sa colonne. Prévenu de la façon désastreuse dont le feu s'était engagé, il s'élança au pas de course vers le point où Monsieur de la Déba était tombé. Il arriva au fatal tournant sans que rien n'eût changé de face. S'abritant du cocotier qui se dresse à l'angle du sentier, il étudia sous les balles et reconnut la position de l'ennemi. Mais au moment où il se découvrait tout entier pour donner un ordre, plusieurs coups de feu éclatèrent. Frappé d'une balle en plein front, Monsieur Halley s'affaissa et, embrassant le tronc du cocotier, il resta agenouillé comme un homme en prière à trois pas du point où Monsieur de la Déba et les hommes blessés étaient étendus. Un instant après, le commandant du navire bucéphale, Monsieur Laferrière, qui avait suivi en simple promeneur une expédition dont on était loin de prévoir la fatale issue, s'étant mis en tête de la colonne La Déba, parvint à dominer le retranchement des Kanaks et s'y précipita, maître Tarellas, pour sauver le commandant Halley. L'ennemi, sans chercher à tenir pied, battit en retraite vers les défilés à lui connus. On les poursuivit avec toute la diligence que permettaient les difficultés du terrain, sans qu'il fût néanmoins possible de l'atteindre à l'arme blanche. Enfin, abandonnant toute idée d'une vaine poursuite, on décida qu'on ferait en sorte d'amener l'ennemi à une attaque de nos positions, ce qui était le seul moyen de le châtier d'une manière sûre et décisive.
Des coups à mon tout et nana, au tétail moana, pour toi Ivi Kanaha. Kanaha. Okeania tevehine, tevehine hakaiki, o tehenua enana, enana nui. Te peyu oe, no te hau ahi ahi, e tu okeania haapi. Mai te ama, kana hau te tai, ohue ananu. Aoe e toe e motu, e motu oa. Apae e te potu, e haa mamau nei au. Apae e te potu, e haa mamau nei au. Haa koana hakaua nei, au no titahi iohi ira, toi toi. Ka oha to oe e ka ia tohu, ka oha to oe e ka ia tohu. No te nuku hakaiki, Ahaka inana. Inana e. Papai ite po utu. E haa mama unei au. Papai ite po utu. E haa mama unei au. Haa kuana haka wanei. Toi toi, ka oha to oe eka ia tohu. Ka oha to oe eka ia tohu.
Le lendemain, dimanche 18 septembre. Avant le jour, on mit en œuvre quelques dispositions arrêtées la veille. 30 hommes de la 16e compagnie, sous les ordres d'un sergent-major, occupèrent en tirailleurs le morne qui sépare les deux bêtes
de Vaitahu et Hanami'ai.
Un poste avancé, commandé par le lieutenant Fossé, s'établit à la lisière d'un taillis voisin du fort et nommé Bois des Français. Enfin, une pièce de 8, mise en batterie, commanda le ravin du côté de Vaitahu. Les glacis du fort se trouvèrent ainsi protégés dans les trois directions dangereuses. À 8 heures, les Kanaks se montrèrent seulement de loin et sur les hauteurs. Cependant, on ne pouvait douter, à la direction suivie par eux, qu'ils allaient se concentrer vers les retranchements français. Tant qu'ils ne purent nuire à nos travailleurs, on ne les inquiéta pas. Mais bientôt, ils surgirent sur une crête dominant le morne. Quand on connaît les deux vallées de Vaitahu et
Hanami'ai,
on sait bien que contrairement à la colline Tuhiva
de Taiohae,
qui est assez bien séparée du reste de la vallée, la fameuse colline qui sépare les deux vallées de Vaitahu
et Hanami'ai, elle continue en montant.
Elle n'est pas détachée de la montagne, donc il est facile de l'attaquer depuis en haut. L'attaque alors commença d'une façon très vive sur ce point, et conjointement sur la gauche du fort et sur la lisière du bois. Plus circonspect néanmoins en ces deux derniers endroits, l'ennemi se tenait toujours éloigné et se découvrait à peine. La seule tentative sérieuse, celle de l'attaque du morne, c'est-à-dire de la colline, fut énergiquement repoussée. Les Kanaks battirent en retraite avec une perte de plusieurs hommes qu'ils emportèrent, suivant leur coutume. Une vive poursuite les contraignit pourtant à laisser 3 de leurs morts en notre pouvoir. 2 Français seulement furent blessés dans cette escarmouche. Au milieu du jour, des hommes du navire Bucéphale, qui sous les ordres de M. Prouet, enseigne de vaisseau, avaient relevé le poste du morne, purent se rapprocher des crêtes et faire reculer les tirailleurs indigènes. Ce mouvement offensif donna une nouvelle impulsion à la fusillade. Les Kanaks se replièrent alors vers les sommets de
Hanami'ai
et continuèrent à tenir en haleine les défenseurs du morne. Un de nos matelots y fut encore blessé. Quelques boulets lancés à toute volée par le Bucéphale semblèrent avoir un heureux effet. Néanmoins, le dommage causé aux indigènes resta inconnu. Dans l'après-midi, l'élève de 2e classe, Gérin Rose, vint porter à M. Prouet l'ordre de ne pas s'avancer davantage et d'élever en un point du morne un épaulement destiné à protéger les hommes pendant la nuit. Quelques ouvriers accompagnaient l'élève. Le choix d'une position réunissant les qualités requises et le tracé de l'épaulement offrirent aux Kanaks une occasion nouvelle de recommencer le feu. Aussi, pendant que l'officier, assisté de M. Gérin Rose, s'occupait à terminer le tracé, une décharge éclata et l'élève fut renversé par une balle qui lui laboura le front dans toute sa longueur. Le travail put s'accomplir néanmoins sans autre incident. À 8 heures du soir, toujours le 18, les Kanaks parurent se disposer à l'attaque en ouvrant le feu sur toutes les faces du camp et sur le morne de la redoute. Cette dernière seule répondit et l'ennemi se retira aussitôt. Le camp avait jugé inutile de compromettre sa poudre dans un tir incertain, c'est-à-dire qu'on avait jugé utile de ne pas tirer si on n'était pas sûr d'atteindre sa cible. Pour la première fois, alors, on reçut quelques coups de canon d'une batterie de 2 pièces établie par les Kanaks sur une hauteur dominant les positions des Français. Comme je disais tout à l'heure, la colline est elle-même surmontée de la montagne et les Marquisiens ont installé 2 canons sur ces hauteurs. Radiguet continue, ces pièces d'artillerie, pourriquées et tout, servies, s'il faut en croire les naturels, par des déserteurs anglais et américains, atteignirent à 2 reprises nos retranchements. Ça veut dire que parmi les Enana, pour attaquer les Français, il y avait aussi des Anglais et des Américains, déserteurs des bateaux qui étaient passés avant. Mais soit que les munitions leur fissent défaut, soit qu'on ne crut pas à l'efficacité de ce tir de nuit, elles se turent bientôt. Néanmoins, M. Laferrière fit monter sur le monde et mettre en batterie un obusier de 12. Dès le point du jour, cette pièce ouvrit le feu sur la batterie Canac qui fut immédiatement abandonnée. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, raconte Radiguet, ces pièces d'artillerie trouvées à la même place furent portées au camp. L'une était le vieux canon qu'on a vu figurer à la prise de possession le 1er mai 1842, l'autre un obusier de montagne acheté depuis à un baleinier. Deux boulets et des pierres cerclées de fer avaient servi de projectiles. Donc, avec le tir de cet obusier, on commence la journée du lundi 19 septembre. On continua ensuite les travaux de la redoute. La redoute, c'est une construction de protection, un genre de blocos. Et l'on en dégagea les abords en mettant le feu aux herbes hautes qui couvraient les versants du morne. Le temps était mauvais. Des grains de pluie et des rafales fréquentes traversaient l'espace. On résolut de ne diriger aucune attaque dans ces conditions. On sait que les cartouches, quand elles sont mouillées, ne fonctionnent pas. Du reste, la fusillade de l'ennemi commençait au jour, à des portées impossibles, était insignifiante et les tirailleurs ne se montraient point. Seulement sur les crêtes lointaines, on voyait passer des combattants, ce qui justifiait le dire de nos espions que l'île de Hivaoa envoyait des renforts à Tahuata. Pour en finir d'un coup, M. Laferrière songea à faire venir la corvette La Boussole, alors en station à Nukuhiva. Il espérait, en partant de nuit avec son navire, réussir à ramener les deux bâtiments le lendemain, tandis que la garnison se bornerait à garder la défensive. Toutefois, les importants services que rendait le Bucéphale faisait hésiter le commandant sur le parti à prendre, c'est-à-dire faisait hésiter le commandant à l'envoyer à Nukuhiva, car il lui aurait fait défaut ce bateau avec ses canons. En cette conjoncture, le second du bord, M. Prouet, offrit de faire avec quelques hommes de bonne volonté la traversée jusqu'à Nukuhiva dans une chaloupe. Après hésitation fondée sur les dangers qu'allait affronter cette légère embarcation assez petite, ce parti fut adopté. Donc, à la nuit close, sous les ordres de M. Prouet, la chaloupe armée de fusils et d'espingoles,
une sorte de mousquet,
montée par 10 matelots et 2 quartiers-maîtres, emportant 5 jours de vivres et un rechange pour chaque homme, cingla vers Nukuhiva. Le soir même, toujours le 19, le temps s'améliora, la nuit fut magnifique et rien ne troubla le silence et la sérénité jusqu'à 4 heures du matin. Chers amis, au soir du lundi 19 septembre 1842, après 3 jours de combats mortels, les Français sont retranchés dans le camp fortifié installé sur la colline séparant Waitahu
de Hanami-ai.
Cette nuit-là, ils attendent des renforts de Nukuhiva. La prochaine fois, nous assisterons à la fin des combats et nous en verrons les conséquences pour les deux camps. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à Jean-Michel Ségur pour sa chanson
Te Vehine Hakaiki, la femme de haut rang, la femme chef, un hymne à la femme marquisienne toujours belle et enjouée.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf.
Kopo, K-O-P-O,
ou sur mon Vini, 87-756-719. À bientôt, à Pai, au Oahu.